Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
Le gouvernement devrait renforcer les FRDC avec des équipements autour des bastions bien connus des assaillants de la CODECO pour les contraindre à se rendre. C'est la proposition du professeur Chaubert Aguenonga, spécialiste en sociologie militaire. Opération séduction du Premier ministre congolais hier lors de son adresse au forum Indaba Mining à Cape Town en Afrique du Sud. Pour Jean-Michel Samalou Kondé, la RDC offre une opportunité à tout investisseur dans le secteur minier dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Enfin, nous recevrons dans cette édition comme invité le professeur Chaubert Aguenonga. D'après lui, les miliciens de la CODECO ont constaté des failles dans les dispositifs de FRDC ces derniers jours. C'est ce qui justifie ces attaques dans le territoire de Djougou en Ituri. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les assaillants de la CODECO ont constaté des failles dans les dispositifs sécuritaires en Ituri depuis l'installation de l'état de siège. C'est ce qui serait à la base de cette montée subite des atrocités dans le territoire de Djougou ces derniers jours. C'est le professeur Chaubert Aguenonga de l'université de Kisangani qui l'a dit ce mardi à Radio Kapi. Pour ce spécialiste des questions de sécurité et des sociologies militaires, ces attaques des miliciens de la CODECO constituent une pression sur le gouvernement pour pousser ces derniers à satisfaire les revendications de ces groupes armés et pour la levée de l'état de siège. Parmi les pistes et solutions pour sortir de cette crise, il propose au gouvernement congolais de renforcer les FRDC avec des équipements autour de bastions bien connus des assaillants. Cela en vue d'exercer le maximum de pression sur ces groupes armés et le contraindre à se rendre aux forces de sécurité. Le professeur Chaubert Aguenonga a été joint au téléphone par Martial Kizabiamungu.
Les miliciens ont constaté qu'il y a des failles dans les dispositifs sécuritaires depuis que l'état de siège a été lancé. Et aucune des opérations de grande envergure qui étaient initialement prévues contre ces miliciens n'a été lancée. Et du coup, ils en profitent pour lancer un défi. Donc, il faudrait comprendre évidemment cette escalade de violence comme un message lancé au gouvernement pour que ces derniers rencontrent les préoccupations des miliciens contenues dans leur cahier de charge. Le gouvernement puisse plutôt renforcer les dispositifs sécuritaires en hommes et en matériel singulièrement autour des bastions de ces miliciens. Ils sont clairement connus en vue d'exercer le maximum de pression et cela les contraindrait évidemment à se rendre aux forces de la défense et de sécurité.
Professeur Chaubert Aguenonga est l'invité dans cette édition du journal. Et puis, le commissariat urbain de la police nationale congolaise de la ville de Beni sera bientôt doté d'un nouveau bâtiment administratif. La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de ce bâtiment financé par la MONUSCO a eu lieu ce mardi en présence de plusieurs autorités, notamment de la police nationale congolaise et du chef de la composante police civile de la MONUSCO, Yuen Paul. André Kitenge pour les détails.
D'un coût de plus de 48 000 dollars américains, ce projet de construction entre dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la composante police de la MONUSCO, notamment dans son volet d'appui à la stabilisation, mais aussi au renforcement des institutions étatiques en République démocratique du Congo. Pour le commissaire de la police de la MONUSCO, cette intervention est une suite d'autres actions de la MONUSCO en faveur de la police nationale congolaise. Le général de brigade Maudit Beretti.
Nous sommes en train d'appuyer la PNC pour l'amélioration du cadre de travail à travers l'élaboration l'adoption des textes qui leur permettent d'encadrer leur travail, mais aussi à la demande du commissariat général, nous garderons à cœur leur souci d'améliorer l'infrastructure.
Le maire de la ville de Beni, quant à lui, n'a pas caché sa satisfaction, celle de voir la MONUSCO accompagner la police nationale congolaise dans l'amélioration de ses conditions de travail. Commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé.
La MONUSCO est en train de nous accompagner, ça fait beaucoup d'années. Elle est venue vers nous pour construire ces beaux bâtiments qui va abriter l'état-major de la police nationale congolaise. Ville de Beni. Pour moi, je n'ai que les sentiments de joie.
Ce projet de construction de ce nouveau bâtiment qui aura 9 bureaux sera exécuté par l'entreprise de construction Office du bâtisseur congolais pour une durée de 3 mois. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ces temps, à Bandundu, dans la province du Kwilu, une délégation constituée des femmes veuves et orphelins des militaires et policiers, ainsi que des anciens combattants des FRDC eux-mêmes, ont saisi lundi 9 mai dernier le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Serge Makongo, pour lui faire part de la retenue à la source et de leur salaire d'une somme de 15 000 francs congolais par la Tembe, agence de Bandundu. Dans leur dire, ils veulent à tout prix connaître la destination de cette somme d'argent retranchée et demandent à Serge Makongo de s'impliquer pour mettre fin à ce genre de retrait qu'ils qualifient d'irrégulier. Et ce dernier a promis d'apporter une solution urgente. Les détails dans ce récit de Irène Bouma.
Devant Serge Makongo, président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, ses veuves, orphelins et anciens combattants des FRDC qui se disent victimes de ces retraits à la source d'une somme de 15 000 francs congolais par la banque Tembe, agence de Bandundu, ont présenté leur mécontentement vis-à-vis de cette banque concernant la dite situation. Ils ont sollicité l'implication de la première institution provinciale afin qu'ils puissent trouver gain de cause. Quelques-uns parmi eux expliquent. Nous, les soldats de troisième âge, nous sommes en difficulté. Nous avons le salaire de 36 000 francs. On arrive à la TMB, comme moi, on m'a retraché à la source 15 000 francs congolais. On me paye 30 000 francs. Les mois passés, on m'avait retraché 4 000. Et avant hier, ils m'ont coupé 10 000 francs congolais. Ému de compassion, Serge Makongo promet de se saisir du dossier pour en trouver une solution urgente. Ça m'a fait très mal d'entendre ces choses. Quelqu'un qui touche 30 000, on lui coupe du coup 15 000. Aujourd'hui même, j'envoie l'invitation au chef d'agence de la TMB d'ici pour que je l'entende. À la fin de l'entretien, le président de l'organe délibérant du Kwilu a demandé à cette délégation de repasser le lendemain pour avoir la suite du dossier. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Pays minier par excellence, la RDC s'est engagée dans une approche de gestion efficace de ses ressources naturelles, et cela en intégrant la dimension de développement et transformation locale des minerais. Ce sont les propos du Premier ministre qui s'est exprimé lors du forum minier Indaba Mining ce mardi 10 mai à Cape Town en Afrique du Sud. Jean-Michel Samaloukonde est revenu aussi sur l'important rôle que la RDC va jouer dans la transition énergétique étant le premier producteur mondial du cobalt. L'essentiel du discours du Premier ministre avec Cynthia Bachizina-Bizana.
Comme nous l'avions précédemment annoncé, le Premier ministre était dans une opération séduction auprès des milliers d'investisseurs présents au Forum Indaba à Cape Town. Et il a pour cela étalé tous les atouts du pays. L'RDC est dotée d'importants gisements. Nous avons le cuivre, le cobalt, le zinc, l'étain, le manganèse, l'or, le diamant, la cassitérite, le wolframite et le coltan, pour ne citer que cela. Et le pays aura donc un rôle de premier plan à jouer dans la transition énergétique en cours à l'échelle mondiale dans le secteur des batteries électriques et des énergies propres. Mais il y a un bémol. En effet, avec toutes ses potentialités, la RDC n'est explorée qu'à hauteur de 19%. Le Premier ministre s'est dit conscient des contraintes, surtout énergétiques, qui affectent l'essor d'une industrie minière congolaise. Mais cela constitue aussi une opportunité qui s'offre à tout investisseur intéressé par ce secteur économique dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant, a souligné le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde.
Le juge président Dieudonné Kalouba Diboa et le juge Prince Fungwa Molima de la Cour constitutionnelle ne font plus partie de cette haute juridiction. C'est le résultat du tirage au sort opéré hier mardi par les juges de la Haute Cour. En dépit de leur mandat de 9 ans, selon la loi, tous les 3 ans, la Cour procède au renouvellement de 1/3 de ses membres qui peuvent être aussi réélus. Le troisième qui était aussi concerné par ce tirage, c'est Polycarpe Mungulu, déjà décédé récemment. La prochaine étape consistera à leur emplacement à la Cour par leur composante de provenance, à savoir l'institution président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature et le Sénat d'où était venu Feu Mungulu. Et puis, après l'élection des gouverneurs au second tour qui s'est déroulé lundi 9 mai dernier dans les provinces du Congo central et de la Tchopo, et les résultats publiés par la CENI le même jour, tous les gouverneurs nouvellement élus de 12 provinces concernées sont désormais connus, ainsi que les 2 vice-gouverneurs de Kinshasa et du Kwango. Mais, à environ 18 mois de la fin de la législature en cours, quels sont les défis qui attendent ces nouveaux gouverneurs? C'est cela qui a constitué l'objet du débat dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi, présenté par Kelly Kouté. Le gouverneur nouvellement élu de la province du Maniema, un des intervenants dans cette mission, place en priorité le désenclavement de cette province par la réhabilitation des routes. On écoute Hubert Kishabongo dans cet extrait sélectionné par Gumaté.
Pour nous au Maniema, la province est enclavée. La priorité pour nous, je crois que suite à cet enclavement, les produits de première nécessité ont un prix élevé par rapport ailleurs. C'est pourquoi, chez nous au Maniema, en priorité, nous devons d'abord désenclaver la province. Donc la priorité, c'est des routes. Nous devons répondre à la philosophie de notre chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Selon sa philosophie, c'est le peuple d'abord. Pour stabiliser la vie de cette population, il faudrait tenir compte de ça, c'est-à-dire désenclaver les routes pour que la population puisse jouir des produits de première nécessité. Cela ne peut pas avoir lieu si nous ne tenons pas compte de la sécurité. Nous savons que au sud Maniema, il y a l'insécurité, voire même au nord. Nous devons tenir compte de tout ça. 18 mois, c'est trop. Moi, je crois qu'à partir de 6 mois, la population verra déjà les effets du travail et de l'expertise qu'on mettra à leur disposition.
Autre nouvelle, à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents des groupes parlementaires a décidé de la poursuite de l'examen de la proposition de loi électorale du G13 sans le FCC. Au cours de sa réunion d'hier mardi, la conférence des présidents a débattu sur la méthodologie d'organisation de la plénière consacrée à la levée des options de la loi électorale. Une plénière est donc prévue pour ce jeudi, afin de lever les options sur les modifications de certaines dispositions de la loi électorale en vigueur proposées par le G13. On écoute le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, au micro de Michel Kifindangoy.
Il vous souviendra qu'après un débat qui a pris 3 jours sur la loi électorale, le bureau de l'Assemblée nationale avait invité l'opposition parlementaire de venir déposer auprès du bureau la liste des dispositions qui requièrent les consensus en vue de permettre les échanges. Après 3 jours d'attente, rien n'a été enregistré. Sur C, la conférence des présidents a décidé de continuer avec la procédure. Une séance plénière est programmée ce jeudi. Au cours de cette séance, il sera question de lever les options. Après que ces options soient adoptées par la plénière, elles seront versées à la commission PAJ pour que la commission PAJ puisse faire le toilettage et ramener un texte amélioré au niveau de la plénière pour son adoption.
Nous continuons notre série de reportages sur le Kasaï oriental. Le trajet reliant la ville de Kinshasa au bief de Ndomba dans le territoire de Kabeakamwanga passant par la ville de Lusambo dans la province du Sankuru est une des voies pour atteindre la ville de Mbujimayi. Compte tenu de son état, cette voie fluviale est loin de résoudre les problèmes de transport et permettre aux personnes et leurs biens de circuler en temps réel. Explication avec vous, Esther Ndalafina.
Voyager par bateau de Kinshasa jusqu'au bief de Ndomba dans le territoire de Kabeakamwanga reste un chemin de la croix. Toutes les embarcations passent par la ville de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru, avant de se jeter dans la rivière Lubi jusqu'au bief de Ndomba dans le territoire de Kabeakamwanga. Olivier Bierler, deuxième armateur après Dr Valérie Tshilombo, propriétaire du MV Wandeka, a repris le trafic fluvial depuis l'an 2021 dans le cadre du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Bierler a affirmé que la voie est jonchée d'obstacles qui empêchent la navigation des embarcations. On trouve des troncs d'arbres qui flottent, le banc de sable est visible à plusieurs endroits. Certaines embarcations perdent leur hélice et restent longtemps bloquées pendant plusieurs jours au point d'exposer les passagers aux maladies hydriques. Cependant, la localité de Ndomba est située à plus de 80 km de Mbujimayi. Après le voyage Kinshasa-Ndomba, le passager utilise pour la plupart les motocyclettes pour atteindre Mbujimayi et d'autres poursuivent le voyage par véhicule. Ceux qui empruntent cette voie affirment qu'il faut une ration alimentaire suffisante suite au nombre de jours de voyage. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, la société civile de Sakania dans le Haut-Katanga alerte sur les difficultés de conservation des corps à Sakania dans le Haut-Katanga. Le frigo mortuaire de l'hôpital général de référence de Sakania est en panne. Les familles sont obligées de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour atteindre la cité de Mokambo. D'où ces cris de détresse de Jean Olondo, coordonnateur de la société civile du Congo, territoire de Sakania, joint par Jean Gandou.
Nous vous informons que les frigos mortuaires de l'hôpital général de référence de Sakania a connu une panne technique et cela depuis un mois. Raison pour laquelle nous ne cessons pas de formuler des plaidoyers auprès des autorités compétentes qui nous écoutent pour nous venir en aide afin de réparer ces frigos mortuaires. Car actuellement nous amenons le corps à l'hôpital de Mokambo et entre Mokambo et Sakania c'est 50 km. Et nous partons après 3 jours, on va à Mokambo pour récupérer les corps et venir l'inhumer à Sakania. Voyez les coûts pour les gens qui ont perdu les nerfs. Il y a des véhicules qui tombent en panne, prend beaucoup d'air. C'est à ce moment-là qu'on arrive à trouver que certains corps se décomposent puisque ça prend un peu beaucoup de temps au niveau de la section Mokambo et Sakania. Il y a urgence pour que toute autorité compétente qui nous écoute de bonne foi puisse nous venir au secours.
Actualité internationale.
En décembre dernier, près de 10 000 réfugiés camerounais vivent dans les camps de Kalambari, à quelques kilomètres de N'Djamena au Tchad, à la suite d'un conflit opposant des communautés d'éleveurs à des pêcheurs. Cela fait presque 6 mois que ces réfugiés vivent dans ces camps, gérés par la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et financés en partie par l'Union européenne et les Nations unies. Les conditions de vie sont difficiles et ces réfugiés n'envisagent pas encore des retours. Beaucoup estiment qu'il est trop tôt pour entrer, craignant de nouveaux conflits.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Chobert Agenonga, professeur associé de l'Université de Kisangani et spécialiste des questions de sécurité et sociologie militaire. Il fait sa lecture de la montée depuis une semaine des atrocités commises par la milice Codeco dans les territoires de Djougou en Ituri, où au moins 70 civils ont été tués en l'espace de 2 jours. Il propose également des pistes de solutions pour arrêter ce cycle de violence. Chobert Agenonga s'entretient avec Marcel Kizabiamongo. Suivez.
Professeur Chobert Agenonga, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquez-vous la montée subite des atrocités dans les territoires de Djougou alors que l'état de siège vient de totaliser une année? Dimanche, plus de 50 personnes ont été tuées par des miliciens au camp Blanket vers Massissi. Lundi, on parle d'une quinzaine d'autres civils tués par ces mêmes miliciens.
Il apparaît très clairement que les miliciens ont constaté qu'il y a des failles dans les dispositifs sécuritaires depuis que l'état de siège a été lancé. Et aucune des opérations de grande envergure qui étaient initialement prévues contre ces miliciens n'a été lancée. Et du coup, ils en profitent pour lancer un défi. Donc, et il faudrait comprendre évidemment cette escalade de violence comme un message lancé au gouvernement pour que ces derniers rencontrent les préoccupations des miliciens contenues dans leur cahier de charges.
Certaines opinions indiquent que l'escalade de violence perpétrée par ces groupes armés constitue un moyen de pression sur le gouvernement de la RDC pour participer à la seconde phase des consultations de Nairobi et pour la levée de l'état de siège. Êtes-vous aussi de cet avis?
Oui, évidemment, c'est ce que les miliciens sont censés déclarer dans leurs différentes interventions, mais il faudrait dire que la participation des miliciens à la négociation serait plutôt une mauvaise idée. Cela cristalliserait l'opinion selon laquelle le gouvernement a capitulé devant les miliciens et que ces derniers ont plutôt obtenu davantage. Donc du coup, cela risquerait de les imposer dans cette négociation, de les pousser plutôt à imposer le point de vue au gouvernement, ce qui ne serait pas une bonne idée.
Et quelle serait une bonne idée selon vous?
Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement puisse plutôt renforcer les dispositifs sécuritaires en hommes et en matériel singulièrement autour des bastions de ces miliciens. Ils sont clairement connus en vue d'exercer le maximum de pression et cela les contraindrait évidemment à se rendre aux forces de la défense et de sécurité. À ce niveau ici, je pense que la MONUSCO devrait apporter main forte au FADC. Par ailleurs, il va falloir renforcer la justice pour dissuader et réprimer très sévèrement les criminels avec leurs complices externes et internes Il y a lieu également d'améliorer les relations civilo-militaires et la motivation des militaires pour les rendre efficaces, de les éloigner des tracasseries auxquelles ils se livrent faute d'une prise en charge efficace.
Alors, rapidement pour terminer, selon vous, que faudra-t-il faire pour arrêter ces cycles de violence puisque visiblement toutes les stratégies initiées par le gouvernement semblent inefficaces?
Il faut repenser le paradigme, il faut repenser l'approche et la persistance de violences en Ituri de manière singulière et dans l'est de la RDC impose à ce que l'on puisse plutôt s'attaquer aux racines de ces violences, et parmi lesquelles il y a entre autres le dysfonctionnement du service de sécurité, ça on ne le dira pas assez, et aussi les ramifications extérieures, les puissances régionales sont derrière ces rebelles, il y en a qui les instrumentalisent, et cela implique également que le gouvernement puisse ouvrir un front diplomatique, enfin de couper les sources de ravitaillement à l'extérieur du pays. Et par ailleurs, il y a la délicate question notamment de la clochardisation des jeunes. Je pense qu'il sera également important de prendre en considération cette préoccupation de manière à ce que l'on rétablisse sur le long terme la paix dans cette partie du pays.
Professeur Chobert Aguilonga, merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.